RFI, 6h44. En temps universel, RFI Matin continue avec tout de suite un point sur les grands titres de l'actualité internationale.
RFI, toute l'actualité, Julien Coquel-Roem.
Un accord conclu après une journée d'incertitude en Israël. Le cabinet de guerre doit approuver ce matin l'accord pour un cessez-le-feu et la libération des otages conclu avec le Hamas et annoncé mercredi. Un dénouement qui se rapproche après des tensions. Hier, Benjamin Netanyahou a accusé le Hamas de revenir sur certains points de la négociation. Le mouvement a démenti. En attendant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu prévu dimanche, les bombardements israéliens se poursuivent sur la bande de Gaza. Le ministère de la Santé du Hamas évoquait hier 81 morts en 24 heures. Emmanuel Macron au Liban, dans une visite annoncée en soutien au nouveau président Joseph Aoun et à la formation d'un nouveau gouvernement. Le président français est arrivé à Beyrouth il y a 2 heures. Il doit rencontrer son homologue, le nouveau Premier ministre, et les représentants des forces politiques. Il pourrait aussi peut-être croiser Anthony Blinken, chef de la diplomatie américaine pour encore quelques jours. Il est en tout cas arrivé hier soir, lui, au Liban. Une croissance à 5% du PIB en 2024. Chiffre annoncé par la Chine hier, le rythme de croissance le plus faible depuis 3 décennies hors période de Covid. La Chine qui répond aussi à l'invitation de Donald Trump malgré les tensions entre Pékin et Washington. Le vice-président chinois assistera lundi à l'investiture du président élu aux États-Unis. Et puis, un partenariat sur 100 ans signé hier par le président ukrainien et le premier ministre britannique. Keir Starmer était à Kiev. Le document prévoit un renforcement de la coopération en matière de défense, de sécurité maritime, mais aussi des partenariats scientifiques et technologiques dans la santé, l'agrotechnologie, l'espace et les drones. Bonjour Catherine Potet.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous.
La revue de la presse africaine avec vous et à la une aujourd'hui, les intentions du Togo au Sahel.
Le Togo n'exclut pas de rejoindre l'AES, l'Alliance des États du Sahel, titre Jeune Afrique qui se base sur les déclarations du ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, à la chaîne de télévision Vox Africa. C'est la décision du président de la République, ajoute même le ministre, qui ne doute pas que cette décision soit populaire au Togo. Demandez aux populations togolaises si le Togo veut entrer dans l'AES, vous allez voir leur réponse, elles vous diront oui, déclare ainsi Robert Dussey. Quel serait l'intérêt des pays de l'AES s'ils pourraient s'assurer un accès à la mer, analyse Jeune Afrique qui rappelle que les 3 pays qui forment l'AES, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, gouvernés par des régimes hostiles à la France, ont annoncé en janvier 2024 leur volonté de quitter la CEDEAO qu'ils jugent instrumentalisée par l'ancienne puissance coloniale. Lors de cette interview à Vox Africa, le ministre Robert Dussey a également estimé que le président Assimi Goïta était une chance pour le Mali, ajoutant « L'Afrique est utilisée par les grandes puissances et ce n'est pas normal ».
À la une également, l'enlèvement d'un ressortissant espagnol en Algérie.
C'est Atalayar qui se fait l'écho de cet enlèvement, précisant que selon les premières informations, les ravisseurs appartiendraient à l'État islamique. Le ressortissant espagnol aurait été kidnappé dans le sud de l'Algérie, puis emmené au Mali. On n'en sait guère plus pour le moment. Le Matin d'Algérie se fait lui aussi l'écho de cet enlèvement qui aurait eu lieu mardi soir au coucher du soleil. Les compagnons algériens enlevés avec lui, son guide notamment, ont été rapidement libérés, précise le Matin d'Algérie. Mercredi, les ravisseurs ont traversé la frontière malienne en passant par Tinzawatène. Leur véhicule a ensuite été repéré à une centaine de kilomètres au nord de Ménaka au Mali. Le Matin d'Algérie, qui s'appuie également sur des informations recueillies par RFI, ajoute qu'aucune déclaration n'a été faite, ni côté algérien, ni côté espagnol. L'Espagne qui mène toutefois des investigations pour vérifier les informations liées à cet enlèvement.
Nous allons à présent au Sénégal, Catherine.
Le pôle judiciaire financier s'est lancé dans une traque de biens mal acquis depuis son installation, nous explique Wealth.net au Sénégal. C'est ainsi qu'il a mis le grappin sur un spécialiste de la location de voitures de luxe qui aurait encaissé plus de 14 milliards de francs CFA pour la location de véhicules de luxe au régime de Macky Sall entre 2020 et 2023. Les enquêteurs agissent dans le cadre de plaintes instruites par la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières sur le blanchiment supposé de plus de 125 milliards de francs CFA. Selon Wealth.net, la suite de l'enquête a également révélé que le loueur de voitures de luxe avait encaissé une créance colossale de plusieurs milliards peu avant la fin du dernier mandat de Macky Sall.
Enfin, en Éthiopie, la santé des chevaux préoccupe les vétérinaires.
Oui, c'est Africa News qui nous en parle après avoir rencontré le vétérinaire Mulugeta Alimou. La situation est celle-ci. En Éthiopie, les chevaux, comme dans beaucoup de pays, jouent un rôle essentiel dans le transport et le commerce, particulièrement dans les zones rurales, mais leur santé soulève de vives inquiétudes, notamment en raison des conditions de travail extrêmement difficiles auxquelles ils sont soumis et du manque d'accès aux soins vétérinaires. Plus précisément, Africa News parle de maltraitance. C'est pourquoi les vétérinaires éthiopiens, et notamment Mulugeta Alimou, se mobilisent pour tenter de sensibiliser les propriétaires et les conducteurs de charrettes à l'importance des soins vétérinaires.
Catherine Potet pour la revue de presse. Merci beaucoup.
RFI Matin.
C'était il y a 2 ans, jour pour jour, au Cameroun, le 17 janvier 2023. Le journaliste Martinez Zogo était assassiné. Depuis 10 mois, 17 personnes comparaissent devant le tribunal militaire de Yaoundé. Mais le procès s'enlise. Aucun accusé, aucun témoin encore entendu. Des débats de procédure. Alors, le tribunal cherche-t-il à gagner du temps? On en parle ce matin avec le chroniqueur judiciaire Christophe Bobiokono. Il est directeur de publication de l'hebdomadaire d'information juridique Kalara et notre grand invité Afrique en ligne de Yaoundé avec Christophe Boisbouvier.
Christophe Bobiokono, bonjour.
Bonjour.
Depuis le début du procès, il y a 10 mois, les débats s'enlisent dans des questions de procédure interminables. Est-ce que c'est voulu de la part du tribunal militaire?
Alors, avec le temps, on peut effectivement penser que ce qui se passe est voulu. Parce que en ce moment, depuis à peu près 2 mois, le procès s'est quasiment arrêté au tribunal militaire de Yaoundé parce que les juges ont pris une décision et les questions posées par cette décision-là sont soumises à l'examen de la cour d'appel du centre.
C'est-à-dire que le tribunal militaire a modifié l'ordonnance de renvoi, ce qui oblige un autre tribunal à se prononcer en ce moment, c'est ça?
Oui.
Est-ce que depuis le début du procès, l'un des principaux acteurs, l'un des principaux témoins a pu s'exprimer?
Aucun des témoins, aucun accusé n'a été entendu jusqu'à présent par rapport aux faits qui sont la cause de la procédure judiciaire. Ils ont simplement plaidé non coupables pour l'ensemble d'entre eux lorsque la question leur a été posée. C'est tout ce qu'ils ont pu faire jusqu'à présent.
Alors parmi les 17 accusés, l'un des principaux est Justin Danwe, l'ancien numéro 2 des services secrets de la DGRE. Il serait passé aux aveux. Mais qui sont les commanditaires? Je crois que c'est la grande question. Et 3 autres personnalités importantes sont dans le box des accusés, hein.
Tout à fait. Ceux qui pourraient apparaître comme les commanditaires de l'affaire, c'est l'ancien DG de la DGRE, M. Leopold Ekoeko et M. Jean-Pierre Amoukoubilinga, qui était le patron du groupe L'Anecdote. Et M. Martin Savoie, il est accusé de complicité d'assassinat, pour ce qui le concerne.
Et c'est le maire de la commune de Bibé, qui est dans la périphérie de Yaoundé. Et alors, toutes ces personnalités, l'homme d'affaires Jean-Pierre Amoukoubilinga, l'ancien patron des services Léopold Ekoeko et le maire de Bibé, Martin-Stéphane Savom, tous plaident non coupables.
Tous les accusés ont plaidé non coupables, tous sans exception. Et cela signifie simplement que même si certains reconnaissent certains faits, ils pourraient dire que ces faits-là n'ont pas été posés dans le cadre de la commission de l'infraction.
Oui, je crois que le numéro 2 de la DGRE, Justin Danwe, reconnaît qu'il est impliqué dans l'enlèvement de Martinez Zogo, mais pas dans son assassinat. Est-ce que les 3 autres personnalités dont on a parlé reconnaissent elles aussi être impliquées dans l'enlèvement?
Ni M. Leopold Ekoeko, ni Jean-Pierre Amoukoubilinga, ni le maire de Bibé, M. Martin Savom, ne reconnaissent leur implication dans ce qui s'est passé. Et on peut comprendre puisqu'ils ont plaidé non coupable.
Alors on connaît les luttes de clans qui existent actuellement au sommet de l'État camerounais. Est-ce qu'il y a des connexions entre ces luttes de clans et l'affaire Martinez Zogo?
Ben, disons que le contenu des informations que nous avons pu compulser dans le cadre de l'enquête menée par la police, l'information judiciaire, ne donne pas trace de ces implications-là. Mais on peut dire que ces luttes des clans-là ont quand même influencé l'enquête en elle-même. Pourquoi? Parce que la première personne qui en parle est M. Leopold Ekoeko dès sa première audition. Il laisse entendre qu'il est entre deux feux et il parle de manière très claire des clans qui combattent pour la succession du président Paul Biya. Et on sait très bien que M. Leopold Ekoeko a été arrêté et pendant qu'il était déjà en prison, a conservé le poste de DG de la DGRE. Et ce n'est qu'à la suite de l'ordonnance, de la fameuse ordonnance de mise en liberté du 1er décembre 2023, que finalement le président de la République lui a ôté la casquette de patron de la DGRE. Donc on suppose qu'à ce moment-là, des influences politiques ont pu entrer en jeu pour permettre cette évolution des choses.
Le Cameroun va rentrer en campagne électorale, puisque la présidentielle est prévue au mois d'octobre. Est-ce que le procès pourra se tenir en pleine campagne ?
Bien sûr, le temps de la justice n'est pas le temps du politique. De toutes les façons, dès lors que personne pour l'instant ne pointe le président Biya dans ce qui s'est passé, sa responsabilité dans ce qui s'est passé, cela pourrait très peu influencer le débat politique.
Alors pour l'instant, le procès est suspendu dans l'attente d'une décision de la Cour d'appel du centre. Est-ce que les juges du tribunal militaire jouent la montre ?
Oui, il apparaît que les juges du tribunal militaire jouent quand même la montre, parce que certaines des parties avaient sollicité des audiences en session. Ça signifie la possibilité pour le tribunal de connaître l'affaire pendant plusieurs jours d'affilée. Mais les juges n'ont pas trouvé nécessaire de répondre à cette question-là. En tout cas, ils ont repoussé cette demande-là. Donc, jusqu'à présent, les audiences sont séparées et sont tenues toutes les 3 semaines. Donc, pour une affaire qui compte 17 accusés, ça peut durer de manière interminable.
Christophe Bobiokono, merci.
Le chroniqueur judiciaire Christophe Bobiokono, invité RFI Matin de Christophe Boisbouvier, un entretien que vous retrouvez sur notre site RFI.fr et notre application Pure Radio. Bientôt 7h en temps universel, le journal dans moins de 5 minutes et tout de suite sur RFI, votre sourire du vendredi. La parlotte de Charlotte avec vous, Charlotte Ntamak. Vous nous dites aujourd'hui que si certains vivent en paix et semblent ne jamais avoir de conflit, c'est parce qu'il existe entre eux des pactes de non-agression.
Oui, il existe des pactes de non-agression, ces traités signés entre États pour éviter des conflits armés et régler les différends par des voies diplomatiques. Il n'y a pas que les États qui ont des conflits, hein, mais les individus aussi. C'est pourquoi il existe aussi le pacte de non-agression entre personnes. Lorsque vous voyez 2 personnes en paix, ce n'est pas qu'il n'y a jamais risque de conflit, c'est juste qu'il y a entre eux un pacte de non-agression.
Voisin, te voilà qui chasse mes enfants quand ils viennent cueillir les mangues sur ton manguier. Quand je vais encore t'interdire avec ta famille et tes visiteurs de traverser ma cour pour aller chez vous, tu vas encore dire que je suis méchant, hein?
Écoute, ma cour, si tu te mêles encore de mes affaires, tu me rembourses l'argent que tu me dois et ne viens plus jamais me demander un prêt. Le pacte de non-agression peut exister à l'insu de celui avec qui on pactise, surtout quand on connaît sa puissance de frappe.
Man, je dis, hein, tu veux mourir. Tu sais que le type-là est ceinture noire 2e dan de karaté. Même s'il a bu sans payer, ça fait quoi? Au lieu de vouloir l'obliger à payer, moi, à ta place, je lui ajoute encore une bière et je lui paye même le taxi.
Lors d'un conflit face à un groupe désarmé, il peut arriver qu'on envoie un missile verbal à tête chercheuse pour atteindre la personne visée en évitant que quelqu'un avec qui on a un pacte de non-agression ne soit une victime collatérale qui pourrait rompre le pacte.
Il y a des gens ici dans cette salle. On ne sait pas ce qu'ils foutent ici.
Je ne parle pas de toi, hein, grand frère, mais des gens. Le pacte de non-agression, c'est un pacte avec des articles bien détaillés.
Mako, n'est-ce pas on avait dit que personne ne doit plus créer l'instabilité sentimentale chez le gars de l'autre, hein? Là où tu ne portes pas le soutien alors qu'on sort dîner avec mon nouveau gars. Tu veux que je commence aussi à porter la mini-jupe quand on est avec Alain?
En couple, il y a des sujets qui forcent les accords de paix et la signature d'un pacte de non-agression.
Tu reviens encore sur ce sujet alors qu'on avait dit qu'on ne parlait plus de ça. Tu veux que je revienne aussi sur ton passé?
Les pactes de non-agression maintiennent la paix, mais certains pactes peuvent faire plus de mal que de bien.
Tu dis que quoi? Que c'est mieux qu'on arrête, hein? Quand tu venais me draguer, tu ne savais pas que j'étais la petite sœur de ton meilleur ami. C'est après avoir agressé mon cœur que tu te rappelles que tu as un pacte de non-agression avec ton ami. Aka, va en brousse avec ça. Toi et moi, c'est jusqu'à la gare.
Comme quoi, un pacte de non-agression n'est pas forcément un pacte de non-transgression. À vendredi.
À vendredi, Charlotte, et merci. Bienvenue sur RFI, si vous nous rejoignez. L'info continue, le journal, dans moins de 2 minutes. À tout de suite.
RFI à Saint-Louis, 99.7 FM. Saint-Laurent, 98.7 FM.
Ce samedi sur RFI, le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, Bruno Faure.
Nous recevons le patron des patrons du Cameroun, Célestin Tawamba, fondateur d'un grand groupe dans l'agroalimentaire et l'industrie pharmaceutique. Engagé pour le développement de son pays et de ses entreprises, il appelle à des réformes profondes de la gouvernance en Afrique.
Écho d'ici, écho d'ailleurs,
avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
En wolof, en sérère, en peul ou en mandingue, elle chante l'espoir et le vivre ensemble. Elle est l'une des rares femmes dans la communauté des joueurs de Kora. La sénégalaise Séni Camara sera avec nous et en live à l'occasion de la sortie de son premier album, Yéné.
Sur le Pont des Arts, avec Nathalie Amar. Du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI.
Vous portez un projet numérique favorisant l'accès universel à l'eau et à l'assainissement, la conservation et l'exploitation durable des mers et océans en Afrique francophone?
Participez à la 9e édition du concours Challenge APAfrique avec RFI et France 24 et bénéficiez d'une dotation financière pour le développement de votre projet.
Candidatez jusqu'au 26 janvier sur APAfrique, APAfrique.rfi.fr.